vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Voilà, mais vous êtes à Ciné Plus et je suis sûre que vous allez apprécier Ciné Plus parce que aujourd'hui nous avons un invité tout à fait remarquable et je suis ravie évidemment de l'avoir dans les studios de FM Plus. C'est véritablement un homme coréen, mais c'est aussi le réalisateur du film Un homme coréen. C'est John Soo-il. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc je suis vraiment ravie que vous soyez jusque-là parce que déjà hier nous avons vu au Diagonale Un homme coréen, un film, la salle était pleine, ils ont tous apprécié, vous n'avez eu que des compliments, donc c'est un film qui vraisemblablement sera redistribué en France, donc c'est un film qui date de 2016, c'est votre dernier film semble-t-il.
Oui, c'était mon 10e film, j'ai tourné il y a 12 ans, de Paris jusqu'au Marseille, pendant l'été. Voilà, donc c'était mon 10e, après que j'ai fait les études à Paris en France, donc ça fait 20 ans que j'ai fait 10 films, et puis voilà, donc je suis revenu avec le film, c'est pas le film français, mais le film coréen, franco-coréen, mais quand même j'ai réussi de tourner en France. Donc oui. Je suis très content de présenter au cinéma Diagonale avec le comment on dit, avec le cinéphile de Montpellier.
Voilà, oui, oui, parce que Montpellier est une ville de cinéphiles, oui. Alors justement, vous avez fait donc des films en France, vous parlez très très bien le français, et donc j'ai lu quelque part que vous aviez appris le français, ou en tout cas vous étiez intéressé, vous avez aimé la France et les Français, surtout par des réalisateurs, et notamment vous êtes un grand fan des années 60, la Nouvelle Vague, René, Godard, on en a parlé, dites-moi tout ça.
Oui, quand j'étais étudiant en cinéma à Busan, en Corée du Sud, pendant mes études, ça a duré 4 ans chez nous. Et puis, à peu près au moins 2-3 ans, on est allé voir les films français de Nouvelle Vague. Chaque soir, on avait le débat après la projection. Mais pendant longtemps, on a quand même beaucoup vu le film français. Après mes études, automatiquement, j'ai décidé de comment on dit, étudier, continuer de cinéma à travers le cinéma français. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai passé pendant 5 ans école de cinéma à la faculté. J'ai fait le mémoire sur Tarkovsky. Et puis je suis retourné et puis j'ai commencé à être d'abord assistant réalisateur et j'ai monté ma propre boîte. J'ai commencé à réaliser, à produire, en même temps en enseignant le cinéma à l'université.
Ah oui, ça c'est parfait. En plus de ça, une thèse sur Tarkovsky, c'est pas n'importe qui. Donc on sent que vous avez quand même un bagage solide dans l'écriture cinématographique.
Hein. Oui, je pense que oui, j'étais influencé par pas mal de cinéastes français et aussi cinéastes européens. Surtout le style de Tarkovsky, mise en scène, narration de quelque chose de spécial de Tarkovsky, ça m'a influencé beaucoup. Donc maintenant aussi quand même selon mes films, aussi je pense quand même potentiellement j'ai quand même l'idée comme chez Tarkovsky.
Oui, oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit la première image de votre film, moi, j'ai un principe. Souvent, les premières images des films nous disent tout sur le film. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que vraiment, quand la première image arrive, elle est magnifique. C'est-à-dire, c'est pas esthétiquement parlant, certes, mais aussi, ça a un sens, quoi. Notamment, c'est une image qui est coupée en deux. Vous avez à gauche une coiffeuse avec des miroirs qui, tout d'un coup, reflètent donc des corps morcelé d'une certaine façon, donc c'est pas n'importe quel décor, on y viendra. Et puis à droite, vous avez le personnage principal, on sait pas encore que c'est lui, il est assis et il parle à on ne sait pas qui, mais on sent, il y a une voix off d'une femme, et qui dit des choses tout à fait intéressantes, parce qu'on est en plus pré-générique, hein. C'est vraiment une séquence que vous avez mise là, vraiment, qui commence le film, et à droite, on entend une femme qui dit « j'ai été adoptée, je suis d'origine coréenne », voilà, et hop, arrive le titre, voilà, et donc cette séquence, alors moi je vous pose toujours la question, parce que comme je suis monteuse, je me dis, voyons, cette séquence, elle a été mise là au montage, pour c'est vraiment le teaser formidable du film, qui nous ou alors c'était prévu dans l'écriture du scénario.
D'abord, c'était pas prévu dans l'écriture après le tournage, quand j'ai monté, donc je me suis rapproché encore. Toujours pour moi, le montage, toujours, c'est la continuité de, comme le tournage, continuité de création. Donc j'ai changé complètement, pas complètement quand même, j'ai changé le comment on dit, l'écriture.
Oui, oui, tout à fait.
Comme vous avez dit, le premier plan, j'avais l'idée de montrer comme le, comment on dit, l'ouverture de Saint Théâtre.
Exact.
Comme ça. Après, on revient le comment on dit, le vraiment le passé récent. Après, on revient le présent et puis on revient encore le passé composé.
Oui.
On revient présent. Donc, j'ai un peu, comment on dit, gérer le temps.
Oui, c'est ça, exactement, gérer le temps. Alors, justement, le temps, il est visible aussi par la lumière de vos images, parce qu'il semblerait quand même que vous connaissiez bien, vous maîtrisiez complètement l'image. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez fait l'image dans le film, mais en tout cas, votre opérateur, il a utilisé à la fois la lumière, le cadrage, et notamment quand il y a un flashback qui rappelle le. Parce qu'on n'a pas parlé du sujet, mais on y viendra. Tout d'un coup, il y a les deux amoureux qui sont là à Paris, deux jeunes mariés. Vous avez choisi une image très saturée, presque surexposée, très lumineuse par rapport au reste. Donc, l'image, vous connaissez.
Oui, j'ai préparé, c'est-à-dire que le présent, j'ai quand même le changé, comment on dit, j'ai décolorisé.
Oui, ah oui.
C'est pour donner l'image de
surex,
notre
peu, oui.
protagoniste qui est vraiment dans la réalité noire.
D'accord.
Il
n'est
pas arrivé à
Ah oui, sous-exposé, là, vous voulez dire, pardon, sous-exposé, oui, d'accord.
Donc, j'ai changé la couleur, dégradé la couleur, mais par contre, son passé, comment on dit, honeymoon, voyage de honeymoon, j'ai laissé comme vraiment la couleur naturelle.
D'accord.
C'était le passé, c'était le moment de très, comment, heureux.
Heureux, oui, d'accord. Et d'ailleurs, ils sont filmés toujours, notamment sur l'impérial d'un bus. On les voit tout à fait, ils sont en hauteur, alors que la plupart du film, enfin, l'errance du personnage est plutôt dans les bas-fonds, vraiment au ras de terre. Alors justement, parlez-nous du point de départ de ce scénario. C'est un fait divers, je crois, non?
Oui, c'est un fait réel. J'ai entendu de cette nouvelle, cette idée. Ça s'est passé vraie histoire. Quand j'étais étudiant à Paris, j'ai entendu parler un couple coréen. Une femme coréenne disparue. Au bout d'une année et demie, le mari a découvert à Marseille.
Et qu'elle était prostituée à Marseille.
Non,
pas forcément.
Elle n'était pas bon état, j'ai entendu.
Oui.
Juste cette nouvelle, j'ai entendu.
D'accord.
J'ai oublié pendant longtemps. Après, cette idée m'a revenu. Mm-hmm. J'ai commencé de développer, écrire ce scénario de film.
D'accord. Parce qu'il y a quand même une cohérence dans toute... Oui, je crois que vous êtes en train de fabriquer une œuvre, hein, parce que vous avez créé plusieurs films. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours... malheureusement, je n'ai pas vu tous vos films, mais je sais qu'il y a quand même, notamment dans l'avant-dernier, Pink, il y a aussi toujours cette errance comme ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de fuir sa famille et qui cherche un peu sa propre identité. Donc je crois que cette recherche d'identité, elle est un peu dans tous vos films.
Oui, je pense que dans mon film, toujours l'idée le principal, toujours je parle de la perte, je parle de la disparition, je parle de la perte de l'identité.
Mm-hmm.
Toujours notre personnage, j'aime bien, il cherche toujours son identité. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'autre film, par exemple, Entre chien et loup, mon film précédent, lui, il cherche sa maison où il était né. Il n'arrive pas à chercher. Et puis, il rencontre hasard une femme. Donc, toujours la rencontre inattendue, toujours la vie, ça ne se coule pas comme on a prévu.
Bien sûr.
Donc, toujours, il y a des événements, il y a des rencontres. Les événements, rencontres, toujours, ça mène dans l'autre voie, ce qu'il n'a pas voulu.
Tout à fait.
Donc, moi, c'est l'idée, c'est à travers le changement de Liu, ou aussi à travers rencontre les gens, l'autre héros, comme ça, personnage qui change, qui s'aperçoit de son univers, où il va avoir son sentiment de nouveau de sa vie alors.
Tout à fait. Et là, dans le film, un homme coréen, c'est évident, parce que la rencontre avec la prostituée est capitale. Parce qu'en même temps, j'ai presque envie de dire que c'est presque un double. Et aussi, c'est presque aussi la jeune femme disparue. C'est-à-dire que il ne sait pas ce qui... Et d'ailleurs, c'est elle qui pose la vraie question au milieu du film, quasiment, à peu près au niveau du montage, c'est à peu près au milieu, en lui disant à ce jeune homme, enfin, qui n'arrête pas de chercher, il est à la recherche de cette femme, et lui dit, mais qu'est-ce que vous ferez si vous découvrez, parce que peut-être, vous dites qu'elle a été kidnappée, mais tout aussi bien, elle est peut-être partie d'elle-même. Alors évidemment, c'est une vraie question, parce que tout d'un coup, ça remet en question complètement ce que pensait l'homme coréen. Donc c'est un tournant dans le film très important.
Oui, je pense que je voulais quand même comment exprimer à travers cette disparition. Donc la femme, peut-être elle est disparue elle-même ou elle peut être kidnappée, mais on sait pas. J'ai laissé comme mystère.
Bien sûr.
Ou que l'homme, son mari, quand même il a pensé que sa femme elle était kidnappée. C'est pour ça qu'il fuit dans les quartiers de prostitution. Et puis en même temps, il a déjà passé 12 ans dans le film. Et puis peut-être il s'est épuisé. Mais toujours comme le Sisyphe. Comme Sisyphe, il continuait de chercher. Il n'arrête pas. C'est la vie comme ça. Donc c'est l'idée toujours pour moi. Un homme toujours cherche sa femme, mais aussi en même temps cherche son identité.
Bien sûr. Et ça, c'est évident dans le film. Et en plus, on le voit très nettement parce qu'il est... Il a tout d'un coup des espèces de rêves, c'est-à-dire, dans votre film, vous maniez avec beaucoup d'habileté des moments complètement oniriques, notamment je repense à une séquence où ils sont dans une forêt, et tout d'un coup, donc le personnage principal, Angso, je crois, il s'appelle Angso, il est là, il y a une jeune femme qui se précipite vers lui, qui se cache derrière lui, arrive un homme en petite tenue, et puis tout d'un coup, c'est filmé avec un grand plan général, on aperçoit à peine un peu le regard de cette jeune femme, on se dit, c'est peut-être sa femme, mais tout d'un coup, il se retourne, elle n'y est plus. Donc, vous maniez le réalisme et l'onirisme et le rêve avec beaucoup de facilité et de maestria.
Oui, parce que moi, je pense qu'on peut imaginer que le cinéma, déjà, ça a commencé de rêve. Ou aussi avec la réalité. On mélange tout le temps avec la fiction documentaire aussi, même aussi. Mais pour ce film, c'est-à-dire qu'un des STF, parce qu'on peut imaginer que STF qui vit comme dans son rêve ou dans la réalité en même temps, comme notre héros, il cherche sa femme. Toujours, il pense que Où je suis, dans le rêve ou dans la réalité.
Tout à fait.
Qu'est-ce que je vais faire si je cherche ma femme? Donc, parce qu'il ne peut pas arriver de s'imaginer le résultat. C'est pour ça qu'il a peut-être, on peut imaginer, il a renoncé de chercher sa femme ou il a rencontré sa femme dans son rêve.
Tout à fait.
Voilà donc le cinéma. Ça, c'est très intéressant. Pour moi, c'est une réalité. Le rêve, il y a toujours la complexité.
Tout à fait.
De montrer pour faire imaginer de... audience.
Bien sûr, bien sûr. On a chacun. Et là, quand l'auteur, enfin, disons, le spectateur est aussi l'auteur, c'est formidable, évidemment. Et dans le même esprit que vous venez d'indiquer, moi, j'ai beaucoup aimé, évidemment, le dernier plan du film où on voit tout d'un coup, il retourne, parce qu'on reparlera des décors tout de suite après, parce que ça, vous avez réussi à trouver des décors formidables. Dans un Paris qui, effectivement, est très sombre, on peut dire, ce n'est pas le Paris des Lumières, mais enfin, après tout, c'est votre choix. On est vraiment dans la pénombre et au ras des pâquerettes, mais bon. Et avec des gens très en difficulté. Mais le dernier plan du film, où il retrouve son lit, dans une espèce de c'est un décor qui est comme une niche, hein. Il est là, et tout d'un coup, vous avez votre caméra qui se rapproche de son visage, ça termine par un gros plan, et on voit juste, c'est même pas une larme qui coule, c'est-à-dire, ça ne coule même pas, il y a juste un point de larme, comme ça, comme une perle dans le coin de l'œil. C'est d'autant plus émouvant, parce que les larmes, c'est vrai, on les a vues, il y a beaucoup de réalisateurs, notamment Almodovar, enfin, où ça pleure et on sent que ça dégage enfin, un certain nombre de choses. Tandis que là, on sent qu'il y a quelque chose de très rentré, on n'en a pas fini. Quoi. Son errance n'est pas finie. Quoi. Le film ne se termine pas comme ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est un très beau plan de fin.
Oui, tu ne voulais pas montrer de larmes dans le drame. Juste, tu voulais montrer son... Comment on dit ? Je voulais montrer qu'il se sent quelque chose de sa vie. C'est voilà, quoi la vie? Donc,
c'est ça.
Il a pas arrivé
sa désespérance
à trouver sa femme.
Un petit peu. Oui.
C'est pas larmes, c'est pas triste.
Non,
c'est larmes de existentiel. Que tu
oui.
Si tu peux
tout
exprimer.
Tout à fait, mais c'est vrai, c'est vrai.
Le déco, par exemple, comme on voit, il est à côté de la scène, il a le mur, mais on voit comme il est dans la prison.
Oui, oui, complètement.
Donc,
complètement.
Comme ouais, les filles, ouais. Le déco, pour moi, toujours il y a toujours le lien avec le personnage. Moi, je ne complète pas le scénario d'abord, avant le tournage, avant le repérage.
C'est ça, vous repérez d'abord les lieux, et ensuite vous mettez les personnages dans les lieux que vous avez choisis.
Ouais. Exactement, oui.
Ah ouais.
Oui. Donc, tu ne complètes pas le scénario, d'abord avec 20 pages, tu cherches le lieu de tournage. Après, tu complètes le scénario avec le lieu, avec les personnages. Comment le personnage qui a le lien avec le décor. C'est-à-dire pour moi, le décor qui respire comme le personnage.
Tout à fait.
Le personnage qui sera là. Donc, ça, pour moi, c'est très, très important de compléter le scénario, aussi le tournage aussi.
Tout à fait.
Toujours le personnage qui est le déco, deuxième personnage pour moi.
Oui, exactement. Et en plus de ça, il y a des plans remarquables. Alors, notamment quand il arrive à Marseille et qu'il regarde dans la rue, il lève la tête et qu'on voit ce mur qui est tout fissuré où habitait en principe, d'après ce qu'on lui avait dit, peut-être éventuellement sa femme, enfin, qu'il a disparu. Et donc, il y a une jeune fille, une gamine qui vient se poser à côté de lui, qui vient de se mettre à côté et qui regarde aussi ces fissures. Et donc le plan est suffisamment long au niveau du tempo du montage pour comprendre que tout se fissure. Il n'y a pas que la maison qui se fissure, non, c'est bien ça que vous avez voulu exprimer. Quoi. Le personnage lui-même est en train de se fissurer, non?
Je n'ai pas tout à fait compris.
Oui, fissuré, ça veut dire que c'est tout d'un coup le bâtiment est presque en train de il y a des grandes failles, enfin c'est en train de se démolir. Vous vous souvenez de ce plan qui se passe à Marseille, là, où on voit les fenêtres fermées, et avec des grandes marbrures comme ça sur le mur, quoi. Ça, c'est très impressionnant, hein. Et voilà. Et on peut renvoyer aussi, il y a un autre plan qui est tout à fait original, parce que c'est peut-être un des rares plans, non pas le rare plan, mais qui se passe de nuit, où il découvre les manouches. Les tziganes, les bohémiens qui chantent. Là, c'est aussi une très belle séquence, une des rares séquences musiquées. Et alors, pourquoi vous avez voulu mettre cette rencontre avec ces bohémiens?
Oui, dans le film, quand il a su la nouvelle de sa femme, il commence de quitter de Paris jusqu'à Marseille. Donc, je voulais quand même montrer comme son voyage en onirique, comme dans le rêve. Il rencontre d'abord un couple, vieux couple, l'homme qui est en train de brûler le corps de sa femme. Et puis, il rencontre les noirs qui a éclaté dans le minibus. Et troisième chose, il rencontre les titans. Les titans, donc, ils sont très heureux. Donc, notre héros rencontre les uns qui sont héros aussi, qui passent la vie sérieuse. Donc, c'est la séquence qu'il a rencontrée. C'est comme ça donne le rêve.
Voilà. Oui, d'accord. Et alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que juste après cette scène de danse, on découvre un gros plan. Il dort comme ça, on ne sait pas où. Et tout d'un coup, la caméra recule et on découvre qu'il est... Donc, évidemment, les bohémiens ont disparu. Mais on retrouve cette maison. Là aussi, vous l'avez trouvée. Elle est pas mal, hein, cette ruine.
Comme il l'a rêvé, peut-être. Voilà. Comme il l'a rêvé, peut-être son désir. Ou comme parce qu'il a vécu comme STF, mais il a gardé toujours l'espoir, quelque chose dans son intérieur.
Tout à fait. En tout cas, on a été vraiment tout à fait emballé par ce film. Hein, donc, on va vous suivre là maintenant. Et alors, justement, ça tombe bien parce que nous sommes évidemment, John Sewill est ici parmi nous, c'est parce que c'est le grand festival Corée d'ici qui a déjà commencé l'an dernier. Donc, je pense qu'avec Yoongo Nam, qui a d'ailleurs été interviewé sur cette même antenne, va évidemment multiplier ce festival qui a du public qui va de plus en plus grandissant. Eh bien, je voudrais signaler que jeudi 10 novembre, donc jeudi prochain, à la Maison des Relations Internationales, on va diffuser un autre film, La Petite Fille de la Terre Noire. Alors ça, je suis désolée, je ne peux pas vous en parler parce que je ne l'ai pas vu, je le regrette beaucoup. Mais peut-être que nous pourrions voir. Vous savez, quand on entend le son, on voit les images quelquefois. On va donc entendre la bande-annonce, si vous en êtes d'accord, Sewill. On va écouter donc la bande-annonce. Mais peut-être d'abord, on n'a pas écouté la bande-annonce d'un homme coréen. C'est oublie-moi pas, Léon de l'enfant.
Il n'y a pas de nouvelles coréennes ici. Le courage.
Cem, 나 여기서 내릴래.
야, 연아, 여기 좀 더 가야 돼.
빨리 보고 싶어.
见过那女的，我在马赛见过她。
Elle dit qu'elle a déjà vu cette femme à Marseille.
以前我在马赛的时候，她就在我隔壁房工作，我肯定她不是中国人。
Elle a dit que quand elle était à Marseille, cette femme elle travaille à côté de sa chambre, mais elle n'était pas chinoise.
Voilà, vous venez donc d'entendre la bande-annonce de Un homme coréen. Et alors c'est vrai que j'espère quand même que par rapport à tout ce qu'on a dit, vous avez retrouvé des choses, hein. C'est évident. En revanche, là, on va juste parler de la dame qui chante. C'est une, elle apparaît dans le micro, dans le métro, pardon. C'est une jeune noire. Enfin, je ne sais pas, les cafés au lait, on va dire. Hein. Je ne sais pas de quel pays elle est. Et c'est elle qui fait ses chansons. Vous l'avez choisie tout à fait par hasard. Comment ça s'est passé?
Oui, quand j'ai préparé le tournage à Paris, j'ai rencontré Azar dans un bar. Comme ça, on s'est discuté, on s'est parlé. Elle a accepté de jouer, de chanter sa chanson qu'elle a composée.
Ah oui.
Donc, parce que ces chansons, ça m'a parlé très bien pour le film.
Tout à fait, ça, oui. Ça fonctionne très bien. Et en même temps, vous l'avez placée dans le métro, elle est juste à un elle est entre deux couloirs. Et même à un moment, le personnage est à gauche, ce sont des escaliers qui sont très sombres. Et à droite, un couloir très lumineux. C'est très intéressant aussi. C'est-à-dire, où vais-je? Est-ce que je monte, je vais vers le noir ou est-ce que je vais dans le couloir lumineux? Donc on rejoint aussi l'idée de rêve et de réalité, bien évidemment. Donc voilà, donc vous l'avez compris, c'est un film. On a hâte qu'il soit diffusé dans toutes les bonnes salles de cinéma en France et il faudra se précipiter pour voir ce film d'un réalisateur très talentueux. Et donc vous aurez la possibilité, je le disais tout à l'heure puisque nous sommes dans plein festival coréen, de voir à la Maison des Relations Internationales donc jeudi 10 novembre donc jeudi prochain à 15h un deuxième film réalisé donc toujours par John Soo-il, La petite fille de la Terre Noire. noir. Alors, si tu en es d'accord, Stéphane, on pourrait peut-être écouter avant qu'on en parle, puisque je donnerai la parole à Souil. On va écouter tout de suite la bande-annonce de La petite fille de la Terre Noire, un film réalisé en 2008. Voilà, vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film La petite fille de la Terre Noire de John Sewell, film qui sera donc projeté jeudi 10 novembre à la Maison des Relations Internationales. Alors, je me retourne à nouveau vers notre réalisateur, nous avons la chance de l'avoir dans les studios. Sewell, alors cette musique déjà, parce que ça c'est frappant, ces notes de musique de piano, c'est une musique originale créée pour le film?
Oui, on a composé pour le film uniquement. Mmh. Donc... juste, on peut entendre cette musique dans le générique.
D'accord, ok, oui. Ok. Alors, donc, je suis désolée, je ne peux pas parler de La petite fille de la Terre Noire, je ne l'ai pas vue, mais alors dites-moi en deux mots, la Terre Noire, c'est donc un pays de mines?
Oui, j'ai raconté d'une histoire de famille, qui est un père qui a perdu son travail dans la mine, parce qu'il a travaillé pendant longtemps, il avait le maladie de poumon, il ne peut pas continuer à travailler. Donc, j'ai parlé de minoritaires, d'anciens mineurs qui toujours avaient compris avec l'aide sociale. Il n'a pas l'aide sociale, donc je parle de toujours la famille. C'est actuel maintenant aussi, la famille aussi mineurs, de minoritaires qui continuent de complanter leur vie à travers... comme ça, la vie sociale.
D'accord. Et alors, la petite fille, c'est elle, elle a donc un rôle à jouer, j'imagine, dans cette famille, non?
Oui, c'est-à-dire que parce qu'elle, comme elle est, comment on dit, elle est responsable de famille, parce que son père est malade. Donc, elle dirige sa famille comme la mère de sa
comme une adulte,
oui.
Quoi, comme une adulte, oui, oui. Oui, d'accord, très bien.
Mais en tu ne peux cas, pas dire tout
bien sûr, il ne faut pas raconter, oui,
oui
tout à fait.
Ça, oui.
Je suis d'accord, mais en revanche, je crois qu'il faut se précipiter parce que je m'aperçois qu'il a eu énormément de récompenses, que ce soit donc aux Canaries, prix du Lotus, meilleur film, prix Air France... Festival international du film de Busan aussi, c'est votre université. La Mostra de Venise, il a eu le prix Lina Mangiacapre. Enfin bon, voilà, donc je crois que c'est un film, et c'est un film réalisé en 2008, donc ça précédait Pink, que dans l'ordre où vous avez fait d'autres films juste après.
Oui, juste après Pink, après La petite fille de la Terre Noire, j'ai appelé le Pink, et il y a aussi l'autre film, I Came From Busan.
Ah oui, d'accord, voilà. D'accord. Donc écoutez, alors maintenant, vos projets, là, vous allez retourner à Busan, où est-ce que vous en vous allez tourner un autre film là bientôt, non?
Oui, maintenant je prépare le prochain 11e film. Donc je vais tourner dans 2 mois et demi en Corée totalement. Voilà, donc le film sera coproduit avec la France. Et puis je vais revenir avec un nouveau film en France.
Eh bien écoutez, c'est formidable. On vous attend de pied ferme parce que vraiment on a été très très heureux de cette rencontre. Merci infiniment Sewell. Et puis de toute façon à bientôt. Merci à Stéphane qui était aux manettes. Et eh bien nous, auditeurs de FM+, et de Alliance+, on se retrouve mercredi prochain.